Salut et bienvenue sur le podcast d'Expat Families. Aujourd'hui au micro, on retrouve Pauline, originaire du sud-ouest de la France. Vous le reconnaîtrez très vite à son accent chantant. Elle vit en Argentine depuis maintenant 13 ans. Pauline nous partage son expérience d'accouchement traumatisante à Buenos Aires qui l'a conduite à se former au métier de doula. Je ne vous en dis pas plus et je vous laisse avec la suite. Très bonne écoute! Bonjour Pauline, merci d'avoir accepté de venir témoigner dans le podcast.
Bonjour.
Avant toute chose, je vais te demander de te présenter un peu. Donc, est-ce que tu peux me dire où est-ce que tu habites, ce que tu fais dans la vie et puis qui compose ta petite expat family?
Ben voilà, je suis Pauline, j'habite en Argentine. J'ai habité 10 ans à Buenos Aires, dans la capitale, et maintenant j'habite avec toute ma famille dans la vallée de Calamuchita, c'est au centre, dans le centre de l'Argentine. Et nous sommes 4 à la maison. Mon conjoint, c'est Federico, il est argentin et nous avons 2 enfants. Lino, qui a 5 ans bientôt, dans 2 semaines. Et Luna Serena, qui a 1 an.
Ok. C'est à combien de kilomètres à peu près de Buenos Aires que vous habitez?
À 800 kilomètres.
D'accord.
C'est dans la province de Córdoba.
Super. Et je vois, j'entends à ton accent que c'est pas forcément un accent espagnol. D'où est-ce que tu viens?
Moi, je suis de Pau. Je suis née à Pau, dans les Pyrénées-Atlantiques. Voilà.
Ok. Est-ce qu'on peut continuer là-dessus sur une petite rétrospective française? Donc, qu'est-ce que tu faisais avant de partir en Argentine? Et puis, qu'est-ce qui t'a emmenée là-bas, surtout?
Ouais, ben écoute, j'ai 35 ans et donc j'ai vécu, je suis née en France. J'ai déménagé en Argentine à 21 ans après avoir terminé une licence en musicologie à Toulouse. Je suis musicienne à la base et quand j'ai eu terminé la fac, je suis partie vivre à Buenos Aires parce que j'étais très intéressée par le tango, la musique du tango. J'avais déjà voyagé avec ma sœur en Argentine avec les sacs à dos et tout ça, à 19 ans. Et puis, voilà. Et puis après, c'est un pays que j'ai beaucoup aimé d'entrer. Et j'ai décidé de revenir à 21 ans pour m'y installer.
D'accord. T'as toujours été une grande voyageuse ou c'est vraiment l'Argentine en lui-même qui t'a fait rêver?
Non, j'ai toujours aimé les voyages. Toujours. Mais bon, à 21 ans, j'avais pas eu le temps. Je pensais à cette époque-là que j'étais grande et en fait, j'étais encore assez jeune, quoi. Et donc, du coup, j'avais beaucoup voyagé, mais j'ai voyagé plus après, en fait, avec la musique, puisque quand je suis arrivée à Buenos Aires, j'ai monté mon orchestre de tango. Et avec cet orchestre, on a beaucoup voyagé après par ailleurs ou avec d'autres projets musicaux. Donc, j'ai toujours aimé les voyages, mais l'Argentine... C'est un peu par hasard, en fait. C'est ma sœur qui avait décidé de partir en vacances là et moi, je l'avais suivie parce que dans mon idée, je voulais partir le plus loin possible, peu importe le pays. Et voilà. Et donc, on est arrivé ici. Et j'ai adoré. Je suis revenue une deuxième fois avec une amie et la troisième fois, je suis venue pour m'installer.
Pour de bon, ok. Et du coup, ton conjoint est argentin, je crois. Donc, tu l'as rencontré sur l'un de tes voyages ou une fois que tu avais aménagé définitivement?
Non, bon, à 21 ans, je suis arrivée à Buenos Aires. Et donc, c'était en 2007. Et non, Federico, je l'ai rencontré en 2014. Donc, j'étais déjà bien installée. J'habitais toute seule. Je travaillais. Enfin, j'étais déjà super installée quand je l'ai connu.
Ok. Et tu parlais espagnol avant d'arriver en Argentine?
Oui, je parlais espagnol. Du fait que à l'école, on apprend l'espagnol au collège et tout ça. Et puis, j'ai toujours aimé les langues.
Un espagnol scolaire, waouh!
Voilà. J'ai toujours aimé les langues, ça m'a toujours beaucoup plu. Et j'ai mis un point d'honneur à parler le mieux possible parce que sinon, des fois, en étant étrangère, dans un pays comme l'Argentine, souvent... C'est important, pour moi, c'était important la langue de parler le mieux possible parce que des fois, sinon, tu te fais arnaquer, tu sais, dans les supermarchés. Ici, ils te font payer le double, tu sais, si tu as un accent un peu étranger. Donc, du coup, voilà, j'ai mis un point d'honneur.
Bon, alors, j'ai dû me faire arnaquer quand j'étais à Buenos Aires il y a quelques années, du coup, parce que je parlais pas bien espagnol personnellement, mais bon.
Voilà.
Ok. Et du coup, 7 ans après ton arrivée, tu rencontres ton mari. Et raconte-nous un petit peu cette rencontre, comment ça s'est fait?
Voilà, en fait, je l'ai rencontré à un moment où, justement, avec la musique, j'étais un peu j'avais envie un peu d'arrêter cette vie, disons, nocturne ou cette vie de voyage, justement. puisque bon, la musique, c'est voilà, c'est jouer le soir, c'est jouer tard, c'est monter des projets, c'est pas facile de vivre de la musique. Et je l'ai rencontré à lui un peu par hasard, en fait. Il travaillait en bas de chez moi et lui, il répare des produits électroménagers. Donc, en fait, mon lave-linge est tombé en panne.
Oh là là, comme dans un film.
Comme dans les films. Et quand je suis allée ouvrir la porte et j'ai vu, je l'ai vu, j'ai dit « Ah non, mais j'étais pas du tout préparée pour le recevoir, tu vois. J'étais décoiffée, ça allait pas du tout. » Non, et puis bon, voilà, trêve de blagues. Voilà, je l'ai rencontré comme ça. Il est venu chez moi me réparer mon lave-linge. Voilà. Et rapidement, 6 mois après, j'étais enceinte de Lino.
Ah oui, ça s'est fait vite, effectivement.
Voilà. Donc, ça a été très rapide.
Donc, Lino était un bébé surprise ou c'était quand même un sujet que vous aviez abordé relativement tôt dans votre relation ?
Non, non. C'était tout à fait prémédité, on va dire. Enfin, on a tout à fait décidé ça.
Qu'est-ce qui a amené votre désir d'enfant au sein de votre couple tout jeune ?
Moi, je crois que c'était simplement... J'étais pas du tout... J'aurais jamais pensé que j'allais être maman à 30 ans. Et puis, en fait, quand j'ai connu Fédé, je me suis dit, ah ben, si, c'est lui le papa, quoi. Enfin, il n'y a pas eu de doute. C'est arrivé tout seul, en fait.
Et le fait d'être dans un pays étranger au pays où tu es née, où tu as grandi, ça t'a pas du tout mis de frein au fait de te poser de questions au départ ? T'étais juste prête à foncer ?
Voilà, exactement. Non, ouais. J'ai pas... Ben, j'étais très installée déjà en Argentine. J'ai jamais eu comme le désir de rentrer en France. Même pas au moment d'avoir cette envie d'être maman. C'est pas du tout quelque chose qui m'a travaillé, disons. Non, j'ai décidé de... On a voulu avoir un enfant, voilà, et il n'y a pas eu d'hésitation à ce niveau-là.
D'accord. Et du coup, cette première grossesse en Argentine, comment se passe-t-elle ?
Alors, à ce moment-là, je ne connaissais rien du tout. D'ailleurs, j'étais assez naïve, disons. Je pensais que le monde des bébés, des naissances et des grossesses, c'était un peu le monde des bisounours, tu vois. Je pensais que c'était quelque chose de...
Je crois qu'on est toutes là-dedans sur la première grossesse.
Voilà, je me disais, bon, ok, il y a une question ici, c'est que tu peux avoir accès à la santé gratuitement, mais bon, les hôpitaux publics sont assez, c'est très très difficile, quoi. C'est-à-dire que c'est difficile d'avoir des rendez-vous, on te donne des rendez-vous pour dans très longtemps, enfin, c'est assez difficile, donc du coup, je me suis inscrite dans une clinique, en fait, qui j'ai payé un espèce de... Ça s'appelle un plan. Donc, en fait, tu payes et tu as tout de couvert jusqu'au un mois du bébé. Et donc, mais bon, ce qui a commencé à me surprendre, en fait, c'était le côté expéditif des rendez-vous avec l'obstétricienne. Tout comme ça, en 5 minutes, à chaque fois, les contrôles. Enfin, c'était...
Il y a beaucoup de rendez-vous pendant une grossesse en Argentine ?
Non, c'est une fois par mois et plus les laboratoires, enfin les analyses, etc. Mais c'est une fois par mois et une échographie par trimestre à peu près.
D'accord. Et pour avoir un ordre d'idée, un plan comme ça dans une clinique privée, ça revient cher ?
À ce moment-là, c'était peut-être, je ne me rappelle plus parce que comme il y a une énorme inflation depuis, mais je te dirais... Peut-être, je ne sais pas, je dirais 600 euros, 700 euros.
Ah oui, d'accord. Bon, on est loin des tarifs américains, mais c'est quand même plus cher qu'en Europe. Quoi.
Voilà. Et aujourd'hui, un accouchement à domicile, par exemple, tout compris, on va dire, ça coûte environ 1000 euros.
Ok. Du coup, tu ne l'as pas dit tout à l'heure au moment de ta présentation, mais donc tu es doula, on y reviendra un peu plus tard dans l'épisode, et tu fais des accouchements à domicile, c'est
voilà.
Ça ?
Voilà.
On en parlera dans quelques minutes. Alors.
Voilà. Donc, c'était quand je suis tombée enceinte de Lino, je suis allée dans le moule, quoi, on va dire. Je me suis inscrite dans cette clinique, j'ai fait les analyses qu'on me demandait de faire. Je suis allée au rendez-vous avec la gynécologue, etc.
Et dans l'ensemble, ta grossesse se passe bien au niveau des maux de grossesse ?
Oui, j'ai une grossesse parfaite, aucun souci. Et je suis arrivée en semaine 40, 41 et il ne se passait rien. Disons que, enfin, il ne se passait rien, normal, puisque bon, je veux dire, chaque bébé a son rythme, on va dire. Mais comme je suis arrivée en bout de course, on m'a donné jusqu'à la semaine 41. Voilà, dépassé le terme. Et arrivée en semaine 41, ben, on m'a dit, voilà, il faut faire un déclenchement. Donc, je suis allée ce jour-là faire un déclenchement qui, je pense, a été bon. d'un côté mal fait et par ailleurs, comme aussi en Argentine, c'est assez courant de d'envoyer directement les femmes en césarienne parce que c'est plus pratique pour tout le monde.
Oui, c'est vrai que c'est un peu les rumeurs qu'on entend au travers, au travers du monde, c'est que dans les pays d'Amérique latine, c'est césarienne un petit peu de confort, quoi.
Exactement. De confort pour les médecins, quoi, pas tellement pour nous. Donc voilà, c'est ce qui s'est passé, c'est-à-dire qu'ils m'ont fait un déclenchement, mais bon, rapidement, ils m'ont dit « ok, non, césarienne ». Et donc, ouais. Il est né par césarienne, et ce jour-là, il a été, comme il avait eu un petit peu de mal à respirer, etc., qu'il avait avalé du méconium, il a été hospitalisé pendant 5 jours. Donc en fait, les 5 premiers jours, je ne l'ai pas vu pratiquement parce que j'étais séparée de lui, parce que dans la néonatologie, on nous mettait des horaires de visite. Parce que...
On ne vous laissait pas être avec non. Le bébé autant que vous vouliez.
C'est ça justement le côté où je me suis dit, waouh, c'est... Enfin là, j'ai découvert vraiment ce que c'était la violence autour des naissances, quoi, parce que c'était de la maltraitance aussi envers nous. On se faisait gronder comme des petits enfants parce que on était trop nerveux ou parce qu'on voulait voir notre bébé, qu'il fallait respecter les horaires.
Ça se comprend de vouloir voir son bébé qui vient de naître. Wow.
Tout à fait. Ouais, c'était une expérience vraiment pour moi très difficile. Puis la césarienne, c'était pas du tout ce à quoi je pensais. Et puis les 5 jours hospitalisés, on savait pas quand est-ce qu'il allait pouvoir sortir. Moi, au 4e jour, j'ai dû partir de la clinique, donc j'ai dû aller dormir pas très loin chez une amie, avec, tu vois, la cicatrice qui faisait hyper mal. Enfin, parce qu'on a...
Ah oui, ils ne t'ont pas laissé rester à l'hôpital pendant que ton enfant était encore hospitalisé?
Non, le dernier jour, non. C'est-à-dire que moi, on m'a donné 4 jours, et puis après, ben, comme j'occupais une chambre qui devait être vide pour quelqu'un d'autre, on m'a dit de partir, et Lino est resté là. Et le lendemain, et on ne savait pas encore quand est-ce qu'il allait sortir, puisqu'on ne nous disait rien, quoi. C'était bon, on verra demain, on verra demain, on verra demain, et puis voilà. Et quand on est revenu le jour suivant, on nous a dit, bon, c'est bon, aujourd'hui, il va pouvoir sortir. Et en fait, plus tard, on a su que c'était parce que en néonatologie, quand ils ont des sondes, etc., ben, on leur donne des antibiotiques, et le protocole veut que les antibiotiques, ça soit pendant 5 jours. Donc, d'entrée, ils savaient que Lino allait rester 5 jours.
Oui, ils auraient pu vous le dire bien plus tôt, quoi.
Ils ne nous disaient rien, donc voilà. Mais après, voilà, le jour suivant, on est allé le chercher et on a pu rentrer à la maison.
Enfin, la vie à trois pouvait démarrer.
Ouais, donc t'imagines arriver à la maison en ayant eu la césarienne, 5 jours sans cette première rencontre qui est si importante justement pour la fusion et pour l'allaitement.
Parce que du coup, Lino, tu l'as vu combien de temps après l'accouchement la première fois ?
Je l'ai vu le lendemain. Il est né à 6 heures du soir. Je l'ai vu le lendemain matin vers 11 heures à peu près. Et ouais, c'était horrible parce qu'il était tout... il avait des sondes partout, il était branché de partout. Je ne pouvais pas le prendre dans mes bras... Et moi, j'étais encore en la cicatrice qui me faisait mal, enfin tout quoi, j'étais en post-opératoire. Et donc, c'était en fait Federico qui faisait les navettes entre ma chambre et la néo, et il faisait les allers-retours dans les couloirs.
Un super papa.
Ouais, ça a été un moment très très difficile, très difficile. Parce qu'après, quand je suis rentrée chez moi, je ne comprenais pas au début pourquoi je n'arrivais pas à me... J'avais du mal, j'étais en stress
post-traumatique, ouais.
En stress post-traumatique, quoi. Vraiment, après ça, j'ai découvert ce terme-là parce que je faisais tout en automatique, si tu veux, mais j'arrivais pas à comprendre que j'étais maman et que j'avais un bébé, que c'était le mien. Et après ça, j'ai compris que ben, c'est normal, je veux dire, dans le monde des mammifères, si on sépare... le bébé de sa maman dans les premières heures et dans les premiers jours, ben, n'importe quel animal, en fait, ressent ça. C'est-à-dire, ben, il n'est pas rare de voir des chattes, par exemple, qui rejettent un bébé parce qu'il a été séparé ou parce qu'il a été touché et manipulé par des humains, par exemple. Et donc, du coup, il y a ce rejet. Et nous, les humains, enfin les femmes, on ressent la même chose. Si on est séparé de notre bébé dès la naissance, ben il y a quelque chose qui se fait pas au niveau, enfin qu'il faut qu'on crée, quoi, qu'il faut qu'on crée de toutes pièces.
D'accord, qui se fait pas tout de suite.
Pas tout de suite. Et pendant 3 mois, j'ai été complètement en pilote automatique, tu vois. Et à 3 mois, Lino, il a fait une bronchiolite. Enfin, voilà, il a été malade. Et là, je pense que ça a été un peu une espèce de douche froide pour moi, de me réveiller, de me dire « Ouf, il faut que je fasse quelque chose, quoi. Enfin, il faut que je me réveille de cette situation parce que j'étais… Ouais. »
La maladie de ton fils t'a fait réaliser que tu avais la vie de ce petit bout entre les mains et que tu en étais responsable. Et du coup, c'est ça être maman, quoi.
Exactement.
C'est ça être maman, ouais.
Tout à fait. Et là, j'ai commencé à me renseigner, je me suis renseignée sur, voilà, qu'est-ce qui se passe au niveau des naissances, de pourquoi les césariennes, c'est aussi compliqué, ou pourquoi, justement, quand le bébé est séparé de sa maman, il se passe ce qui... Enfin, j'ai commencé à comprendre ce qui m'arrivait aussi, quoi. Il y a un tabou autour de ça. On te dit, bon, ben voilà, tu sors de la clinique, on te dit, ben voilà, le plus important, c'est que ton bébé, il aille bien, c'est que toi, t'ailles bien, donc c'est bon, quoi.
On ne te donne pas les cartes pour savoir le faire, quoi. On te dit qu'est-ce qu'il faut au bout, mais on ne te dit pas le chemin.
Tout à fait. Tu vois, je rentre chez moi, et j'avais des crevasses, j'avais du mal à allaiter parce que j'avais mal, enfin, tout ça. Et voilà. On m'a lâchée dans la nature avec ça et voilà, tout simplement, je pense que à ce moment-là, je me suis dit, ben non. Enfin, d'ailleurs, non. Je me rappelle que quand je suis sortie de la clinique, je me rappelle, mais vraiment, c'était un jour, c'était l'été, et je suis sortie de la clinique et j'ai dit non, mais il faut vraiment que j'alerte les autres femmes sur ce qui m'est arrivé, parce qu'il faut pas que ça, il faut que ça arrive à personne, en fait, ça. Ce qui m'est arrivé à moi, c'est-à-dire faire des choses sur moi, sur mon corps, sans me prévenir. Manipuler l'information, hospitaliser les bébés sans, en évitant le contact et la fusion, justement, maman-bébé, voilà. Moi, j'ai dit, bon, je ne sais pas comment, mais quand je vais pouvoir remonter la pente, je vais faire en sorte que, voilà, que les autres femmes ne passent pas par ça, quoi. Et donc, la même année, j'ai fait ma formation de doula.
Ah, attends, tu vas un tout petit peu trop vite. Je voudrais juste revenir un petit peu sur ton retour à la maison avec Lino. Du coup, tu as dit que l'allaitement avait mis un petit peu de temps à se mettre en place. Tu as tenté quand même après 5 jours de mettre en place un allaitement, c'est ça ?
Tout à fait.
Tu avais de l'aide à la maison ? Tu as de la famille qui est venue te voir pour te soutenir un peu ?
Non, j'avais pas d'aide. On n'avait pas d'aide d'ailleurs de personne. Quand j'étais à la clinique, on m'a expliqué comment me tirer le lait, mais en fait, on m'a laissée toute seule dans un coin avec un tire-lait, et puis voilà, débrouille-toi. Et donc, du coup, quand je suis arrivée à la maison, ben, j'avais déjà des crevasses. Et c'est aussi ça que j'ai trouvé comme un réflexe, que j'en parle avec d'autres femmes, c'est que quand je suis arrivée à la maison et que justement l'allaitement, c'était si difficile de mettre en place parce que j'avais super mal, j'ai tout de suite appelé une puéricultrice, mais vraiment tout de suite, quoi, pour qu'elle vienne à la maison, pour qu'elle vienne m'aider, parce que j'ai bien senti que ben, il me fallait quelqu'un à côté de moi de bienveillant qui reprenne l'histoire à zéro et qui me guide pour l'allaitement, parce que si en plus de ça l'allaitement n'avait pas fonctionné, pour moi ça aurait été dramatique pour la relation avec mon bébé.
L'allaitement était quelque chose que tu pouvais pas rater, quoi. T'avais pas eu l'accouchement dont tu rêvais, donc tu voulais vraiment réussir l'allaitement derrière.
Ah oui.
Ouais.
Pourtant, tu vois, enceinte, je n'avais pas tellement pensé à l'allaitement. Enfin, j'y avais pensé, je savais que j'allais allaiter, mais j'ai bien compris dès les premiers jours que c'était ce qui allait nous sauver vraiment dans notre relation. Et donc, j'ai appelé une puéricultrice pour qu'elle vienne m'aider. Et c'est grâce à elle, en fait, que, voilà, elle m'a dit non, tout va bien, il prend bien le sein, il n'y a pas de souci, il va falloir que ben, ça va passer. Mais et ça a mis 1 mois et demi. À passer les crevasses, wow. J'ai vraiment dégusté, mais bon, après, je me suis dit, voilà, c'est ça, quoi, je peux pas rater l'allaitement.
Ah, t'étais déterminée, incroyable. Mm-hmm. Ah, finalement, tu vois, tu l'avais quand même, ce réflexe de maman, c'était, tu voulais créer ce lien via l'allaitement, donc t'étais déjà maman un petit peu quand même, si t'as dit que ça avait pris 3 mois.
Tout à fait, il y avait quelque chose
tu avais déjà
un
ça.
Peu instinctif, et en même temps, enfin, je comprenais bien que... qu'on avait raté quelque chose. Je ne savais pas encore trop comment, mais je savais qu'il y avait quelque chose qui avait été raté et je savais qu'il fallait, il fallait récupérer quelque chose.
Mm-hmm.
Et Lino a été allaité pendant 3 ans et demi.
Donc, ah oui, tu vois, après, finalement, tu as bien réussi ton truc. Wow.
Ça a bien marché.
Bah, donc je te tire mon chapeau. Donc tu me disais ouais. que dans l'année qui a suivi la naissance de Lino, tu as une révélation professionnelle. Tu as souhaité devenir mm-hmm. doula. Donc c'est un métier qui est encore trop peu connu, je pense. Enfin, personnellement, c'est un métier qui me fait rêver. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus?
La doula, c'est une femme qui va accompagner tout le processus de maternité, de la grossesse à l'accouchement, au post-natal. Et elle a un rôle bien différent de la sage-femme ou du gynécologue, puisque c'est une femme qui accompagne plutôt les émotions, la préparation, et puis qui donne de l'info, qui informe en fait aussi les familles, qui les aide à se préparer, qui aide à préparer la maison, on est aussi formé pour accompagner l'accouchement. On ne fait pas de gestes médicaux pendant l'accouchement, mais on accompagne les femmes. Ça peut être avec des massages, ça peut être aussi au niveau logistique de s'occuper des autres frères et sœurs pendant l'accouchement. Ça peut être de soutenir. Soutenir la femme aussi au moment de son travail ou de son accouchement. Et dans le postnatal, aider à l'allaitement. On est formé aussi pour accompagner tout ce qui est le postnatal, quoi, c'est-à-dire les émotions de la maman. On comprend aussi la physiologie du corps de la femme. Donc, on accompagne aussi tout ce processus-là. Et pour ma part, comme je suis aussi passionnée par l'éducation en général, la parentalité, j'accompagne aussi tout ça jusqu'aux 2-3 ans de l'enfant, en fait.
Waouh, t'es un peu un ange gardien des parents, quoi.
Voilà, c'est exactement...
Du début de la grossesse jusqu'à 3 ans plus tard.
Voilà, c'est l'ange gardien, c'est exactement ça. C'est-à-dire la doula, c'est l'ange gardien, totalement, c'est ça. L'ange gardien de la famille. Donc, elle va aussi faire le lien, peut-être aussi avec les sages-femmes ou avec les médecins. Elle peut accompagner à des rendez-vous. Elle aide les gens, les familles, à élaborer leur plan de...
Ouais, leur plan de famille, en fait. Ouais, ouais.
De parents, le mieux possible, en fonction des envies, en fonction des envies des parents. C'est-à-dire qu'on va essayer de définir d'abord ce dont les parents ont envie et après, on va mettre le plan en place, en fait.
Et voilà. Du coup, comment tu as réussi à combiner une formation et un nouveau métier avec un bambin qui avait seulement un an ?
Par chance, dans la formation que j'ai faite, les bébés étaient acceptés.
Waouh ! C'est bien.
C'est-à-dire que comme on se formait comme doula, donc entre nous-mêmes, entre les formatrices et puis les participantes, on s'aidait entre nous, quoi. On était plusieurs à avoir des bébés petits. En général, on était à peu près toutes dans le même... avec la même histoire, c'est-à-dire qu'on avait eu des naissances assez traumatiques, donc on voulait, on était tout à peu près au même niveau, quoi, à ce niveau-là. On voulait travailler sur notre propre maternité, ce qui était d'ailleurs, la formation était super pour ça, puisque
c'est salvateur.
On travaillait d'abord sur nous-mêmes.
Ouais, ouais.
Donc, je pouvais amener le bébé avec moi et puis on se relayait avec Federico qui m'aidait pour le garder pendant la formation.
C'est un métier qui est un peu plus démocratisé en Argentine que dans le reste du monde parce que, enfin, je sais qu'aux États-Unis c'est assez connu, mais en Europe, par exemple, ça n'existe pas ou vraiment très peu. En Argentine, c'est quelque chose qui se fait beaucoup ?
C'est pas connu, disons, en général. Je veux dire, si je dis à ma voisine que je suis doula, elle va me dire, c'est quoi ça ? Mais il y a un gros mouvement aussi, un très grand mouvement pour protéger les naissances, pour le respect des naissances, oui. Je dirais plus qu'en France. J'ai l'impression qu'un petit peu plus qu'en France. Mais en même temps, ça reste un mouvement quand même indépendant, un peu en marge, quoi, du système.
D'accord. Donc, tu te lances dans le métier de doula. Tu fais tes premiers accouchements, tes premières naissances, je suppose. Comment ça se passe pour toi d'accompagner les femmes dans les premiers temps ?
Mon premier accompagnement, justement, ça a été une femme française qui habitait à Buenos Aires. Donc, c'était un peu... c'était pas prévu, mais ça s'est passé comme ça. Et ça a été une césarienne aussi. Donc, un an et demi après la naissance de mon fils, je me suis retrouvée dans un bloc opératoire, dans une césarienne, accompagnée d'une césarienne d'une maman française. Et ça a été une grande aventure. Et en fait, je me suis sentie vraiment à ma place, quoi. C'était vraiment quelque chose que je trouvais de naturel. Ça a été vraiment super.
D'accord. Donc, en fait, les doulas n'accompagnent pas forcément que dans les accouchements à domicile. Ça peut être aussi sur une césarienne ou sur un accouchement en hôpital classique.
Oui, ça peut être dans une institution. Ça peut être partout, n'importe quelle grossesse. D'accord. Cette maman en question était en plus mère célibataire. Donc, on était toutes les deux dans le bloc. Et voilà. Et si, ça peut être n'importe où. C'est pour ça. Bon, comme justement, ce n'est pas un métier qui est très connu, c'est tout l'enjeu des doulas, c'est de se présenter dans les institutions, c'est de pouvoir après rentrer dans l'institution, accompagner les familles dans les salles d'accouchement, dans les blocs opératoires s'il y a besoin. Donc, c'est pas évident, mais on est formé pour ça. Donc, c'est à nous après d'aller parler dans les institutions pour pouvoir rentrer et accompagner les parents jusqu'au bout, quoi.
Ouais. Toujours ce petit côté ange gardien qui prend pas trop de place et qui est présent pour soutenir la famille. Waouh, c'est beau. Et donc, une fois que tu t'es reconvertie, que tu commences ce métier, à quel moment vient le désir d'un second enfant dans votre famille, dans ta vie ?
Alors, à ce moment-là, on habitait à Buenos Aires. Donc, on avait déménagé dans la banlieue. Mais Buenos Aires, c'est une ville immense, immense, immense. Et c'est une ville... très, très agité, on va dire. Et quand Lino est né, rapidement, on a eu le désir de partir à la campagne parce que on ne se sentait pas tellement en sécurité. Et puis, c'est surtout que Lino a un tempérament... Enfin, il a beaucoup besoin de comme n'importe quel enfant. Mais bon, lui particulièrement, je trouvais qu'il avait beaucoup besoin de bouger, de courir, de grimper, voilà, on a vite vu le profil, quoi. Et dans un appartement, ça allait pas du tout, c'était pas du tout l'endroit pour lui, donc...
C'est pas compatible.
Donc, assez vite, on a eu le désir de partir, et on a choisi donc la province de Cordoba, qui est une province avec des montagnes, et l'endroit où on est, c'est très vert, et on a dit, bon, ben, on va s'installer là-bas. Donc, on est parti, on a acheté un terrain, on est parti. À ce moment-là, on avait une ambulance des années 70, une vieille, un vieux camion qu'on avait acheté. Et on a fait le déménagement comme ça. On a chargé le camion, on est parti et on est venu s'installer sur le terrain qu'on avait acheté avec une tente, c'est tout.
Il avait quel âge, Lina ?
Il a fait 2 ans quand on est arrivé.
Wow, d'accord. Donc, à 2 ans, on habite dans une tente et une ambulance sur un terrain.
Ah oui, c'est un truc... c'était folklore. Non, en plus, c'était l'été. Donc, on avait l'été devant nous pour construire la maison parce que après ça venait l'hiver et qu'il fallait vraiment que pour l'hiver, on soit à l'intérieur de la maison. Donc, mon conjoint sait construire. Enfin, il sait tout faire, c'était super utile. Et donc, on s'est installé dans la tente et on a vécu dans la tente pendant 4 mois, tout l'été et le début de l'automne. Et pendant ce temps, tous les jours, on construisait. C'était assez difficile pour moi parce que un enfant de 2 ans demande beaucoup d'attention, donc je n'avais pas forcément la disponibilité pour aider pour la construction.
Oui, vous avez construit... En 4 mois.
En 4 mois, on a fait la structure, quoi. Après, c'est pas terminé. Je veux dire, 3 ans après, c'est pas terminé. On a encore beaucoup de boulot devant nous, mais la structure était faite. Ouais, en 4 mois, on a. Ouais, bon, après, ça a été la première année. On habitait dans la maison, mais c'était très limité, quoi, on va dire. C'était pas tout à fait confortable encore, mais bon, petit à petit, voilà. Et au jour d'aujourd'hui, on continue petit à petit à faire des travaux. Voilà, et donc, on a passé l'hiver, on a passé le premier hiver, et quand le printemps est arrivé, j'ai dit à Federico, je crois que c'est le moment pour avoir un autre enfant. Lino, il avait déjà 2 ans et demi et je me suis dit, c'est maintenant. Voilà, c'est pareil. Un peu comme la première fois, on s'est dit, voilà, c'est maintenant le moment pour en avoir un autre. Et donc, je suis tombée enceinte assez rapidement.
Cette fois-ci, grossesse complètement différente. Tu étais vraiment au courant de tout ce qui allait t'arriver, de tout ce que tu voulais, tout ce que tu ne voulais pas.
Tout à fait.
Raconte-moi un petit peu.
Voilà, j'avais déjà, ouais, j'avais déjà donc la formation, j'avais déjà accompagné des naissances, et dès que je suis arrivée dans la vallée où on habite aujourd'hui, je suis allée à la rencontre des sages-femmes, en fait, parce qu'on a choisi cette vallée où je suis ici aujourd'hui, parce que justement dans la formation de doula, l'une des formatrices était sage-femme et nous parlait d'une école de sage-femme dans la vallée de Cordoba, qui avait une école de sage-femme traditionnelle en fait, c'est-à-dire des sage-femmes qui se forment à partir des connaissances ancestrales, on va dire, de l'Argentine. Et donc, il y a une école au milieu de la forêt, enfin, elle nous parlait de cet endroit et je me suis dit, ben, si on doit déménager, si on doit aller quelque part, on ira dans cette vallée, c'est sûr. Donc, en fait, on a choisi d'habiter dans la vallée où il y a cette école de sage-femme en question. Donc, dès que je suis arrivée, je suis allée les rencontrer. Et dès que je suis arrivée, elles m'ont intégrée dans leur équipe où elles ne travaillent qu'avec sur des accouchements à domicile. Mais disons, l'une d'entre elles fait le lien avec l'hôpital, puisque comme elle est obstétricienne, en fait, c'est s'il y a besoin d'un transfert à l'hôpital, c'est elle qui s'en occupe, etc. Donc, parfois aussi, on peut aller à l'hôpital accompagner des mamans si l'accouchement à domicile ne peut pas se faire. Mais bon, j'ai commencé à travailler avec elle et donc du coup, j'ai commencé à accompagner des accouchements à domicile. Et donc du coup, j'étais complètement accompagnée quand je suis tombée enceinte. J'étais accompagnée par ce groupe de sages-femmes. J'allais aux accouchements, je voyais des femmes accoucher. Enfin, j'étais vraiment dans ce bain-là. Donc quand je suis tombée enceinte, ben, naturellement, j'ai commencé à faire partie de cette communauté de femmes enceintes dans la vallée, à accompagner les accouchements, mais à moi-même aussi recevoir les soins des sages-femmes. Et donc, c'était très différent comme accompagnement. J'étais beaucoup moins seule que la première fois. J'étais dans une autre ambiance, quoi.
Wow, super. Et du coup, c'était un suivi de grossesse beaucoup moins médicalisé que la première grossesse, donc moins de rendez-vous médicaux avec échographie, tout ça.
Mm-hmm. Oui, ben en fait, j'ai commencé à choisir ce que je pensais qui était important et ce qui non, en fait. Il y a plein de choses que moi-même, je ne voulais pas faire. Je ne voulais pas faire 50 échographies, je ne voulais pas faire... Enfin, à partir de l'information que j'avais, de ma formation et de mes connaissances, j'ai décidé réellement ce que je pensais qui était important, ce que je pouvais laisser, disons, de côté. Par contre, c'est pas une grossesse qui a été aussi facile que pour Lino, paradoxalement, parce que j'ai eu des saignements au troisième ou quatrième mois de grossesse. Ça a été très, très difficile pour moi parce que... Voilà, j'ai eu peur tout simplement de perdre le bébé et donc du coup j'ai dû faire beaucoup de repos, j'ai dû me reposer beaucoup au quatrième mois, pendant un mois à peu près, j'ai dû être couchée. Donc bon, ça n'a pas été une grossesse très facile et puis surtout en ayant un enfant de 3 ans autour qui demandait voilà, de l'attention, etc. La maison qui était encore en travaux, enfin bon, c'était assez sport quand même.
C'est pas forcément les conditions les plus calmes pour avoir une grossesse, effectivement.
Ouais, et en même temps, c'était le moment, quoi.
Ouais, tu savais que c'était le bon moment
pour tout ça.
Et du coup, cet accouchement, fais-nous rêver un petit peu, un accouchement d'une doula.
Ben, ça n'a pas été l'accouchement rêvé non plus, tu vois, paradoxalement. Enfin, dans le sens où l'accouchement à domicile n'a pas eu lieu, parce que je me préparais pour un accouchement à domicile. Et puis, le temps passait, et il m'est arrivé la même chose qu'avec Lino, c'est-à-dire que j'ai fait un dépassement de terme. Je suis arrivée en semaine 40, 41, et puis 42. Et donc, bon, on a pris la décision qu'on devait faire un déclenchement à nouveau. Mais comme j'avais une césarienne déjà avec Lino, comme j'avais une cicatrice, en fait, le déclenchement devait se faire à l'hôpital.
Pour être sûre de ne pas prendre de risques par rapport à la cicatrice.
Exactement. Donc, imagine ma situation dans les derniers jours de grossesse où, voilà, je devais mettre fin à mon rêve d'accoucher à la maison. J'allais aller à l'hôpital, j'allais avoir à nouveau un déclenchement. J'avais la césarienne, tu vois, qui me rôdait à nouveau. Ouais, ça a été, je crois, la pire semaine de toute ma vie parce que c'était, voilà, une espèce de moment de me dire qu'est-ce qui va se passer. C'était l'incertitude.
T'as su te faire entourer cette fois-ci, peut-être, avec les sages-femmes de ta communauté pour qu'elles te soutiennent, qu'elles te rassurent un peu?
Voilà, j'étais très entourée. Elles sont venues toute cette dernière semaine-là. Elles sont venues à la maison. Elles m'ont fait des massages. On a fait de
Ah,
l'acupuncture.
super.
On a fait, on a tout fait, mais rien à faire, quoi.
Elle ne voulait pas sortir.
Non, de l'homéopathie. Bon, bref. Et donc, voilà, le jour est arrivé où je devais aller à l'hôpital pour faire ce fameux déclenchement. Et bon, c'était tout un. On a décidé que, comme on n'était pas. Enfin, on n'avait pas vraiment. Prévu ça, quoi. Donc, c'était un peu difficile aussi pour Lino, qui avait 3 ans et demi. Le jour de l'accouchement, on savait pas comment ça allait se passer. Les enfants n'étaient pas acceptés, évidemment, à l'intérieur de l'hôpital. Donc, on a décidé que mon conjoint restait avec Lino, passait la journée avec lui, pendant que moi, je commençais mon déclenchement à l'hôpital avec les sages-femmes, et qu'au moment de la naissance, ben, elles allaient l'appeler pour qu'il s'approche et qu'il vienne. Mais on avait décidé que j'allais me concentrer, que ça allait être... Je voulais pas, en fait, ça me stressait d'avoir à m'occuper de Lino, enfin, de penser comment il allait être, s'il allait pas se stresser ce jour-là, etc. Donc on a décidé que c'était Federico qui allait s'occuper de notre enfant, et moi je me concentrais pour mon accouchement parce que...
de toi et de la petite à venir.
Voilà. Et en fait, le déclenchement a marché vraiment très bien. C'est-à-dire que j'ai aussitôt commencé à avoir des contractions. Et elle est née très rapidement, en fait. Elle est née très rapidement et j'étais dans l'hôpital. C'était une situation assez inédite parce que, comme je te disais, les doulas, les sages-femmes, des fois, qui travaillent en indépendant, n'ont pas forcément accès dans les hôpitaux, qui ont déjà des équipes de formés, etc. Mais ce jour-là, on est rentrés dans l'hôpital et les sages-femmes sont rentrées avec moi et... elles m'ont fait une espèce de bouclier humain.
Quand tu dis on, vous étiez combien? Laisse-moi imaginer combien vous étiez à rentrer en force comme ça dans un hôpital.
Mais au départ, quand je suis rentrée dans la chambre, on n'était que deux, enfin, moi et la sage-femme. Et puis, au moment d'accoucher, en fait, comme c'était mes amis, mes collègues, etc., elles ont voulu être présentes toutes. Et puis, moi, j'avais demandé est-ce que. Voilà, si vous pouvez être toutes là, ça sera super. Mais en sachant qu'à l'hôpital, ça allait être impossible de rentrer. Elles étaient 5, t'imagines, à 5 dans la salle d'accouchement.
Waouh, une vraie sororité, ça fait rêver un petit peu, ça. C'est waouh, incroyable.
Si, c'était magique, en fait. C'est pour ça, je te dis, l'accouchement à la maison n'a pas eu lieu, mais à l'hôpital, j'étais dans ma bulle, entourée d'elles. Il y en a une à laquelle je m'agrippais pendant que l'autre, elle me faisait des massages, pendant que, voilà, en fait, c'était... Donc, quand je suis arrivée dans la salle d'accouchement et que j'étais sur le point d'accoucher, ben, elles étaient toutes autour de moi, en fait. Elles avaient toutes réussi à rentrer dans l'hôpital.
Je visualise la scène, ça donne des frissons.
Ouais, c'est magnifique. Et même d'ailleurs, la pédiatre de l'hôpital, la pauvre, elle essayait de s'approcher. Elle n'arrivait même pas à s'approcher de la petite quand elle est née parce que elle était... tu vois, elle était un peu dans son coin, la pauvre. Et voilà, et finalement l'accouchement a eu lieu, donc pour moi c'était très important parce qu'après une césarienne, ben, c'était mission accomplie, l'accouchement s'est très bien passé et puis il n'y a pas eu de séparation.
Tu avais tout de suite la petite sur toi.
Tout à fait, en peau à peau. J'avais parlé au préalable avec la pédiatre, je lui avais dit écoutez, je ne sais pas quels sont les protocoles de l'hôpital, mais je vous en supplie. La seule chose que je vous demande, c'est de ne pas me séparer parce que je ne veux pas, quoi. Je l'ai supplié. Avant de commencer le déclenchement, j'ai demandé à la connaître, puisque je ne la connaissais pas, la pédiatre de l'hôpital. Donc voilà, je lui ai dit non. Et franchement, je ne sais pas quels sont les protocoles, mais je vous en supplie, vous me quittez pas l'enfant.
Tellement important de réussir à s'exprimer en tant que future maman, de dire en avance ce qu'on veut, parce qu'une fois qu'on est dans le flot du travail, on n'arrive plus forcément à s'exprimer, quoi. Donc savoir un petit peu en avance ce qu'on veut et pouvoir l'exprimer, c'est bien.
Tout à fait.
C'est top.
Ouais.
Du coup, cette fois-ci, vous êtes restée combien de temps à l'hôpital ?
Donc, du coup, j'ai accouché rapidement. Bon, normalement, on aurait dû rester 2 jours, mais j'ai demandé à sortir le plus vite possible. Donc, en fait, elle est née à 4h de l'après-midi et je suis restée jusqu'au lendemain matin, 8h. Donc, on a passé la nuit à l'hôpital. Federico est rentré dans la salle d'accouchement à 1 minute après qu'elle soit née, en fait. Le cordon n'était pas encore coupé, mais il arrivait en courant. Ça y est, elle est née. Bon, elle venait juste de naître, mais finalement, tout a été parfait parce que voilà, je sens qu'il est arrivé vraiment au bon moment, en fait, que avant ça, c'est, enfin,
ouais, voilà. C'était le travail des femmes un petit peu avant, et puis une fois que le bébé était là, c'était la place du papa.
Tout à fait. Et donc après ça, Lino a pu connaître sa petite sœur aussi, une fois qu'on est passé dans la chambre.
Alors cette rencontre du grand frère et de la petite sœur, c'est toujours un moment magique apparemment pour les parents notamment, ouais, alors raconte-nous.
C'est magique, ben, c'est... Il a souri, juste. Il est rentré dans la chambre de l'hôpital, il a souri, il a vu. Il est monté sur le lit, il a vu, il a dit « Bon, ben, je retourne jouer au toboggan. » Il est ressorti en courant de la... de la chambre, il est reparti jouer avec son papa dehors. Et voilà, tout simplement, quoi.
C'est comme si elle avait toujours été là, quoi. Ça y est, le bébé serait là et puis c'est bon.
Voilà, il a vérifié qu'elle était là. Et le lendemain matin, ils sont venus me chercher et on est rentré à la maison et voilà, c'était super. Donc je pense que c'est pas pour moi, j'ai fait le deuil de cet accouchement à la maison, mais l'accouchement par ailleurs s'est très bien passé et finalement c'est pas tellement l'endroit pour moi qui compte, c'est vraiment l'accompagnement, quoi. Ça reste vraiment ce que
la bulle dans laquelle tu te mets à ce moment-là.
Ouais, tout à fait. Et les personnes qui t'accompagnent, en fait, qui s'occupent d'être justement de ton tes gardiennes, tes anges gardiens du moment, vraiment. C'est ce qui s'est passé à l'hôpital, c'est-à-dire que j'ai pu accoucher, j'étais dans ma bulle, j'étais entourée d'elles, en fait, dans un endroit qui, par ailleurs, est vraiment horrible, quoi. Je veux dire...
Le lieu ne compte plus quand on est dans sa bulle avec ses bonnes personnes, quoi.
Tout à fait. Parce que le lieu en soi, l'hôpital de la vallée, il est horrible. Enfin, c'est vraiment l'endroit où tu dirais, j'accoucherai jamais dans cet endroit. D'ailleurs, c'est ça qui me faisait peur, c'est que je me disais, est-ce que je vais pouvoir accoucher dans cet endroit, quoi. si tu vois les photos de l'accouchement, c'est un endroit vraiment moche, vieux, pas bien équipé, les chambres sont horribles. tu vois, c'est pas du tout l'endroit où tu sens que t'es bien, quoi. C'est un endroit... Ouais. Mais bon... L'important pour moi, ça a vraiment été d'être bien accompagnée, c'est clair.
Et du coup, aujourd'hui, tu te lances dans l'accompagnement, j'ai envie de dire à distance, je ne sais pas trop comment dire, puisque tu viens de créer une page Instagram pour aider les mamans expatriées autour du monde. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur les dernières minutes ?
Ouais, ça parle un peu de ma relation avec la France, parce que pendant longtemps, j'étais expatriée, j'étais coupée en fait de la France. J'ai fait ma vie en Argentine, j'ai commencé à travailler ici, j'ai pratiquement plus parlé français. D'ailleurs, des fois, ça se sent parce que je cherche mes mots et tout ça, mais j'ai pas tellement eu de enfin, sauf avec ma famille qui est en France, mais j'ai fait ma vie en Argentine vraiment, quoi. Et il y a quelques mois, j'ai senti le besoin de refaire un contact avec la France ou avec le monde francophone, quoi, en général, parce que ben, mon fils, maintenant qui va faire 5 ans, par exemple, on n'a pas mis en place la langue, je ne lui parle pas. Parler en français quand il était bébé, mais pas tellement, en fait. J'ai eu du mal à lui parler français dans un contexte où tout le monde parlait espagnol, où il n'y avait pas de famille à côté pour faire le relais avec la langue. Enfin, ça a été très difficile pour moi, la langue. Et donc là, avec la petite qui a 1 an et qui commence à dire des mots, quand elle a commencé à dire des mots, je me suis dit, bon, ce coup-ci, je vais lui parler en français. Mais j'avais une espèce de blocage, en fait, avec la langue, avec la France. Et en fait, j'ai fait une espèce de chemin interne, intérieur, de retour vers mes racines et de me dire, ben, en fait, ce que je fais, l'accompagnement des femmes, l'information que je transmets, l'accompagnement, puis surtout en temps de pandémie où justement on reprend un peu le contact avec le travail par le télétravail, le contact à distance, etc. Je me suis dit, ben, en fait, ce que je fais en espagnol, je peux très bien le faire en français. Mais ça a été un cheminement en fait, de retour vers la France, de me dire, voilà, ce que j'ai appris ici en Amérique du Sud, en Argentine, des traditions ancestrales entre guillemets autour de la naissance, autour de la physiologie, autour du sacré, je peux le transmettre à des femmes françaises. Ça va sûrement être important pour des femmes, c'est-à-dire que mon cheminement en Argentine, tout ce par quoi je suis passée, je pense que ça peut être vraiment un outil que je peux utiliser pour aider d'autres femmes en France. Et donc du coup je me suis dit, bon ben voilà, il faut repartir à zéro. Mais bon, je me suis dit, ok, je refais un lien avec la France, je fais un espèce de retour en fait, et en même temps ça a commencé avec voilà le parler en français à mes enfants, donc Lino qui maintenant parle pas français, il comprend mais il parle pas trop, il me dit maman mais parle-moi en espagnol parce que je te comprends pas quand je parle en français, donc je me suis dit mince j'ai raté le coche en fait, et avec la toute petite ben, voilà je lui parle beaucoup plus en français. Mais bon, ça a été un déblocage.
Peut-être qu'il va vouloir parler français pour faire comme sa petite sœur maintenant.
Voilà. Et oui, du coup, ça me pose, c'est un peu la question que je me pose, quoi, la question de la langue. Donc, c'est pour ça qu'aussi, j'ai cherché, grâce au réseau, d'autres mamans qui sont expatriées pour partager mon expérience aussi. Parce que moi-même, si j'accompagne des mamans dans leur processus de maternité, parentalité, j'ai moi-même besoin d'être soutenue dans mon propre cheminement. Enfin, moi, je crois beaucoup à ça, au fait de s'entraider, en fait, de communiquer. Donc, voilà, j'ai commencé à organiser aussi des chats entre mamans expatriées pour qu'on puisse parler de nos expériences. Par exemple, voilà, l'expérience avec la langue, l'expérience avec le pays, les expériences de maternité à l'étranger. Donc, en plus, disons, de ce que moi, je service aux femmes d'accompagnement, d'information, etc., ben, en plus de ça, j'organise un peu ces rendez-vous où on parle de la maternité, de ce qui nous arrive en étant loin de notre pays. Et on se retrouve sur plein de choses, en fait.
Ah, c'est super. J'ai pas eu l'occasion encore de participer à un des chats que tu organises, mais j'espère avoir l'opportunité de le faire très prochainement, parce que c'est vrai que ça doit être vraiment hyper instructif de partager entre mamans de nos expériences aux quatre coins du monde. Ouais, c'est des expériences vraiment spécifiques à nous en tant qu'expat, je pense, d'être loin des familles, d'être dans un pays qu'on connaît pas, avec parfois des langues qu'on maîtrise pas. Je pense que c'est quelque chose qui est vraiment spécifique aux mamans expat, et c'est vraiment un super projet que tu as mis en place là.
Ouais, c'est tout frais, donc c'est pour ça que je t'inviterai la prochaine fois, et toutes les femmes, mamans expatriées qui nous écoutent sont invitées.
On n'hésitera pas à partager sur notre page Instagram ton compte. Je pense que notre petite interview va toucher à sa fin dans quelques minutes. Donc déjà, je voulais te remercier, Pauline, parce que tu nous as appris plein de choses sur la maternité en Argentine. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite, du coup?
Qu'est-ce qu'on peut me souhaiter? Ben, je souhaite... En fait, c'est un souhait pour moi, et puis c'est un souhait pour toutes les mamans qui nous écoutent. C'est d'être... Maintenant, disons que ce qui est en plus difficile... Déjà que c'est difficile la maternité, et qu'en général, on est assez seule, quoi. Mais en plus, en temps de pandémie, comme ça, je trouve que ça nous isole encore plus. Donc, ce que je souhaite pour moi, et puis pour les autres mamans, c'est qu'on utilise... justement ce qui nous reste, c'est-à-dire les réseaux, etc., pour nous accompagner entre nous, pour nous soutenir. Et ce que je souhaite pour toutes les mamans, ben, c'est qu'elles puissent aussi profiter de ces moments d'isolement aussi pour se retrouver elles-mêmes et pour profiter vraiment des enfants, parce que ça a été une année où on était beaucoup isolés avec nos enfants, quoi, à la maison, et qu'on revienne à eux, en fait. C'est un peu ce que j'essaye de...
Ouais, c'est vrai que pour certains parents, finalement, c'était bénéfique, cet isolement et ce confinement, c'était de retrouver des liens avec nos enfants.
Tout à fait. Donc, c'est ça que je souhaite, c'est qu'on puisse revenir vers nos enfants, les observer, les comprendre, et pour nous comprendre nous-mêmes aussi, pour nous retrouver nous-mêmes. C'est un peu ce que j'essaye de transmettre, c'est-à-dire que la maternité, c'est un moment d'introspection, de retour à nous-mêmes, à notre femme sauvage, sacrée, intuitive, instinctive. Et les enfants aussi, si on les suit dans ce cheminement-là, ben, ils nous mènent à ça. Donc, ce que je souhaite pour moi, parce que je suis en plein cheminement par rapport à ça, c'est de me retrouver vraiment pleinement. Donc, dans ce retour vers la France, c'est un peu aussi ce que je cherche à faire. Et puis pour toutes les mamans aussi, quoi, qu'elles puissent profiter le plus possible de leur maternité comme un moment vraiment d'auto-observation, d'auto-connaissance.
Une introspection.
Voilà, tout à fait.
Waouh, merci pour ce beau message. Eh bien, merci, Pauline, je te souhaite une très belle journée.
Merci, merci Amélie.
Et voilà pour cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao !